Il veut avoir notre présence. Hein? Et donc, c'est aujourd'hui, je vais continuer à parler sur l'invitation que Dieu nous lance à passer du temps avec lui. La série s'appelle « Une invitation au silence et à la solitude ». Et ça fait déjà mon troisième message que je prêche à ce sujet-là. Fait que, Père, je te demande de me conduire durant la prédication de ce message. Amen. Dans le premier message, on a vu que nous devions accepter cette invitation-là. On a vu qu'il y avait un challenge à faire le silence. Ah, vous êtes là? Je ne vous voyais pas. Il y a un challenge intellectuel parce qu'on est toujours en train de ça tourne toujours, on est dans le bruit tout le temps. C'est un challenge au niveau de la société. C'est un challenge au niveau relationnel. C'est un challenge même qui est émotionnel parce que veut pas quand on fait le silence, il y a des choses qui repopent en surface. On a vu ça dans le premier message. Et on a dit qu'on se fierait sur l'histoire d'Élie dans 1 Roi chapitre 18 pour notre série. Et puis, je suis en préparation pour une autre série qui est une étude du livre aux Galates. Et en attendant que ça soit prêt et que c'est au four, on va passer un petit peu de temps dans cette série-là. Dans le premier message, on avait vu aussi que c'est pas par pur désir qu'un homme se tourne vers Dieu, c'est par pur besoin. On se tourne pas à Dieu par pur désir. Rares sont ceux qui disent « j'ai un désir peu pour Dieu ». Non, on y va souvent parce qu'on a besoin de lui. Puis on est arrivé à la fin de nos ressources, puis là on dit « mon cœur ne va se calmer qu'en toi ». Et là on cherche sa présence, mais on le cherche pour nous. C'est souvent très égocentrique. Et c'est la désolation qui nous amène souvent à arriver à Dieu puis dire « j'ai tout essayé Seigneur, je suis toujours dans mon pétrin ». Et je me tourne vers toi. Donc, ça, c'était le premier message. Dans le deuxième, on a commencé à reconnaître la résistance qu'on a à faire le silence puis à rester seul devant Dieu. Et on a parlé que c'était juste le temps de commencer. On a donné quelques conseils pratiques à ce sujet-là. On a débuté le sujet de la résistance, puis aujourd'hui, je vais creuser dans la résistance. Aujourd'hui, le titre du message, ça va être « Briser notre résistance ». Briser la résistance par rapport à l'invitation de Dieu à faire le silence devant lui. Dans le premier message, si vous voulez réécouter, vous allez avoir une vingtaine de versets qu'on a donnés sur ça, que ce n'est pas quelque chose qui appartient aux religions de l'Est, de faire le vide, de faire le silence, que c'est plutôt quelque chose qui nous est demandé par Dieu, puis que c'est qu'il faut réapproprier ce qui appartient à la culture biblique. Et donc, vous allez avoir une base scripturaire pour cette série-là, là-dedans. Comme j'ai dit, Dieu est le premier à vouloir avoir un rendez-vous avec chacun d'entre nous. Il est le premier à lancer l'invitation. La Bible dit qu'on l'aime parce qu'il nous a aimés en premier. Et donc, il y a plusieurs paraboles qui sont utilisées dans la Bible pour nous parler que Dieu veut avoir une rencontre avec nous. Des fois, c'est un banquet avec un mariage qui est préparé. Puis là, il y a une invitation qui est lancée. Une autre fois, c'est Dieu qui frappe à la porte, puis c'est quelqu'un qui rentre. Dans le premier scénario, Dieu est celui qui lance l'invitation et puis qui prépare la bouffe, puis qui prépare la fête. Et l'emphase est mise sur le fait qu'on doit répondre ou non à cette invitation-là. Et dans la parabole, on voit qu'il y a des gens qui disent « Ah, excuse-moi, j'ai ma paire de bœufs que je viens d'essayer. Nous, on dirait aujourd'hui, j'ai mon nouveau tracteur à essayer ou je viens de commencer une nouvelle job, Seigneur, je suis occupé. » Il y en a d'autres qui disent « Je viens de me marier, Seigneur, je suis préoccupé par ça. » Et l'emphase est mise sur la réponse que l'homme fait à son Créateur ou à celui qui a convoqué pour le mariage, que les activités humaines sont beaucoup plus importantes que l'invitation qui lui est lancée. Dans l'exemple de Dieu qui frappe à la porte, c'est Dieu qui s'invite. Chez nous, puis c'est à nous de dire si on va ouvrir la porte ou on va la fermer. L'emphase est mise sur le choix d'accepter ou de refuser. On voit d'autres images qui sont très belles dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Luc 15, où le fils prodigue, hein, le père fait une fête, puis il dit à tout le monde de venir du village, puis il prépare une fête, puis il y a son frère qui est là, puis qui ne veut pas venir à cette fête-là aussi. Donc, Dieu a mis en chacun d'entre nous un désir pour lui. Il nous a créés avec cette image-là. Et il y a un effet de tire-pousse dans notre cœur. Tire parce que Dieu nous a créés pour être attirés par lui. Ou un pousse, il nous pousse à l'aimer, mais il y a quelque chose qui tire puis qui nous retient. Il y a quelque chose en dedans de moi qui dit c'est bon d'être proche de Dieu, mais il y a une autre chose qui dit t'as pas le temps d'être proche de Dieu, ou il y a quelque chose qui me tire. Et on veut essayer d'aujourd'hui briser cette résistance-là. Et là, si mon dernier message était d'être sensible au fait qu'il y a une résistance dans notre cœur, aujourd'hui, on va essayer de la reconnaître encore plus, puis on va essayer de la briser ensemble, comme que Dieu nous permet de le faire. Pour comprendre la résistance du tir qui m'empêche de d'être complètement dévoué à mon Dieu, et il faut simplement aller à la chute. Et c'est des réalités qui sont très proches de nous, très faciles, ça monte naturellement au cœur de l'homme. La première partie de mon message, c'est des choses qui montent naturellement au cœur de l'homme. La personne peut être ici ou nous entendre sur un enregistrement, pas être sauvée pendant tout, puis comprendre exactement la première partie de notre message. Dans la deuxième partie de notre message, il faut que le Saint-Esprit ait fait une œuvre de nous réveiller, de nous révéler des choses, parce que ça vient pas naturellement au cœur de l'homme. Avant la chute, il y avait un poste de radio. C'est facile, Dieu parlait et on l'écoutait, puis on croyait ce qu'il nous disait, sans doute. Dieu est bon, donc Dieu est bon. Et l'homme marchait avec son Dieu, il avait une assurance dans la vérité, rien ne le retenait, tout allait dans le sens de comment il a été créé. Et puis, à la chute, avant la chute, il y avait beaucoup d'options pour servir Dieu, une seule pour lui désobéir. Beaucoup d'options pour le servir, une seule pour le désobéir. Puis un poste de radio. Et là, à la chute ou depuis la chute, là, il y a beaucoup d'options pour lui désobéir et encore beaucoup d'options pour le servir. Mais l'homme accepte depuis la chute beaucoup de choses sur Dieu qui ne sont pas conformes à Dieu. Et donc, la première partie de mon message, on va adresser une mauvaise vision envers Dieu. Par exemple, dès Genèse chapitre 3, un petit peu avant la chute, Dieu lui avait dit, « Tu mangeras de tous les arbres. » Dieu est très, garde, le monde est à toi. Je veux dire, fais ce que tu veux sur la terre, mais une affaire, touche pas à cet arbre-là. Satan arrive et dit, « Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin? » C'est pas ça que Dieu avait dit. Un autre poste de radio vient de s'ouvrir. Là, j'ai le choix entre deux chaînes. J'ai le choix entre la chaîne du Seigneur puis la chaîne qui me fait douter de lui. Et donc, cette voix-là vient dire, est-ce que Dieu a dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres? Et la femme va être en train d'osciller maintenant, ne se souviendra plus ou va mettre en doute ce que Dieu va dire. Puis elle va dire, Dieu nous a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur que vous ne mouriez. Est-ce que Dieu avait dit ça? Y avait-tu dit de peur que vous ne mouriez? Vous allez mourir, c'est un fait. Et donc aujourd'hui, je veux parler de la nature mortelle de l'homme. La nature mortelle de l'homme, c'est que l'homme est mort ce jour-là. Parce que la mort, ça veut dire être séparé d'avec. Ça veut pas juste dire tomber à terre puis respirer. Ça, c'est quand notre âme immatérielle va être séparée de notre corps matériel, on va être mort par rapport à notre corps, mais on va être encore un âme vivant. Mais l'homme qui est âme vivante et corps vivant a été séparé d'avec la source de vie qui est son créateur. Et là, maintenant, il est séparé d'avec Dieu sur sa manière de connaître les choses, sur sa manière de faire les choses et sa manière de voir Dieu et de se voir lui-même. Et depuis la chute maintenant, on a une fausse vision de Dieu. Plusieurs le voient comme un maître auquel on doit rendre des comptes. Qui veut aller passer 20 minutes dans la présence de celui devant qui tout est mis à nu et devant lequel nous devons rendre des comptes? Je veux dire, on connaît tous nos cadavres dans le placard. On connaît tous nos mauvaises œuvres, nos choses qui nous rendent honteuses de notre passé. Qui voudrait aller devant celui qui nous voit tel qu'on est et devant qui on doit comparaître? Est-ce qu'il est juste un juge? Et donc, depuis le Jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? La fermeté en Dieu s'est effondrée. Et là, même un petit peu, la chute, en fait, elle n'a pas commencé quand la femme a mangé de fruits, que ce soit une pomme, une orange ou une pamplemousse. C'est pas quand elle a mangé. C'est quand elle a commencé à dire, à la mettre en doute, que Dieu avait quelque chose de bon pour elle. Et aujourd'hui, la convoitise nous conduit, puisqu'on dit que le bonheur serait dans quelque chose qu'on n'a pas encore. Puis c'est pas en Dieu. La femme a commencé à penser que Dieu, là, si Dieu, donc, mettant en doute Dieu sur qu'est-ce que Dieu a permis, c'est pas assez, il manque encore quelque chose, il manque quelque chose pour que je sois heureux. Elle a tombé dans un mode de convoitise et sa fermeté en Dieu s'est effondrée et elle a eu une crainte, celle de passer à côté d'une belle occasion. Hey, ça va nous ouvrir l'intelligence puis on va pouvoir connaître nous-mêmes qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Elle sentait qu'elle passait à côté de quelque chose et pour beaucoup d'entre nous, passer du temps, se rapprocher plus de Jésus, ça veut dire perdre quelque chose. Ça veut dire de pas mordre à pleines dents dans la vie qui nous est offerte. Et beaucoup des gens qui nous connaissent pensent que notre vie chrétienne, c'est une vie de privation, c'est une vie de pas pouvoir faire des choses, alors que c'est un mensonge. C'est un mensonge qu'on a accepté. Et donc, notre fermeté en Dieu de dire « Dieu est le soutien de ma vie, il est la source de ma joie, il est toute ma vie pour qui je veux vivre », s'effondre parce qu'on a peur de passer à quelque côté de quelque chose si on donnerait à Dieu 100% de notre vie. Deuxièmement, on a entendu la voix du Seigneur et on a eu peur. « Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » On a peur de Dieu. Les conviés ont peur de Dieu. Pourquoi? Parce que notre vision de Dieu a changé à la chute. On ne le voit plus comme lui se voit, puis qu'il nous dit comment le voir. Mais maintenant, on le voit séparé d'avec lui. On a une expérience mortelle ou une expérience séparée d'avec Dieu. Et donc, on a peur que ce que Dieu a à nous offrir ne soit pas suffisant pour nous combler. Et c'est on le voit tout le temps. On le voit tous les jours. Les gens qui ont peur de donner leur vie à Jésus, ils pensent qu'ils vont perdre quelque chose en venant à lui, alors qu'il est la source de la vie. Il est le créateur de toutes choses. Hein? Le convié, Dieu est là, il lance l'invitation, il veut une salle pleine, il fait un festin, c'est la culmination de la création de l'univers, c'est de faire face à notre Seigneur, de le voir avec lui. Je veux dire, il n'y a rien de plus haute que ça. Dieu, ce qu'il a à nous offrir est peut-être pas suffisant. C'est ce que nos contemporains disent et c'est ce que nous disons aussi souvent. Lorsque nous passons toute autre chose avant lui, c'est que Dieu, ce qu'il a à offrir n'est pas suffisant pour moi. Et si je m'approchais de Dieu et que mon besoin ne serait pas comblé, on a peur que les choses de Dieu ne nous comblent pas entièrement et donc les choses du monde semblent plus attrayantes que Dieu. Et c'est pourquoi Jean dit dans 1 Jean 2,15 que celui qui aime, qui a l'amour du monde dans son cœur, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il n'a pas connu l'amour du Père. Il ne connaît pas le Père. Hein? Parce que c'est pas, on ne perd pas lorsqu'on s'approche du Père. On gagne, on a tout à gagner. L'homme aussi connaît ses égarements. Il connaît ses cadavres dans le placard, comme je disais tantôt. Il sait que on est devant Dieu comme nu et on va devoir comparaître et notre conscience nous en témoigne. Regardez dans n'importe quelle religion du monde. Chez les bouddhistes, on va donner autant à Bouddha qu'on a payé en loterie. Tu sais, quand j'étais allé en Thaïlande, c'est drôle, c'est une des choses que j'ai remarquais. Il y a des Bouddhas un peu partout, puis ils vont faire brûler des chandelles, puis ils vont amener de l'argent. Puis dans un livre que je lisais sur la culture, il disait, ils donnent autant qu'ils ont donné en loterie. Comme s'ils disaient, tu sais, il faut balancer les œuvres. Dans n'importe quelle religion du monde, souvent, qu'est-ce qu'on voit? L'homme qui tente d'apaiser un Dieu en colère. On n'a pas une bonne vision de Dieu. Même si Dieu est saint, puis que devant lui, tout est mis à nu et on va devoir comparaître, je vais en parler plus tard dans mon message, mais naturellement, au cœur de l'homme, il y a des choses qui ne sont pas montées concernant sa bonté et son amour envers nous. On est invité par un Dieu, mais on ne se sent pas acceptable. Un Dieu qui est saint, mais on ne se sent pas acceptable. La misère de l'homme, c'est qu'à cause de ses ténèbres, il fuit la lumière qui est en Dieu. « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur », disait Adam. Pierre a dit « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur », la première fois que Jésus l'a pris dans sa barque pour le prendre avec lui comme disciple. Ésaïe, je suis un peuple, nous sommes un peuple dont les lèvres sont impures. Dans Luc 18, un homme est dans le temple et dit, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pauvre pécheur. Si la conscience que Dieu nous a donnée fait vraiment son œuvre, c'est à cette conclusion-là qu'on arrive devant un Dieu saint. Naturellement, au cœur de l'homme, si tu penses que tu es une bonne personne, éventuellement, si tu écoutes vraiment ta conscience et tu n'as pas souillé ta conscience en appelant le bien mal et le mal bien pour te justifier, tu vas arriver à la même conclusion que chacun d'entre nous, qui peut être assez bon? Ou qu'est-ce qui arrive avec mes égarements? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Et donc, Dieu lance l'invitation, et l'invitation tient toujours, il est le premier à faire l'invitation, mais l'homme ne se présente pas au rendez-vous. Ça vous est-tu déjà arrivé de faire une rencontre avec quelqu'un, puis la personne ne se présente pas? Eh bien, à Dieu, ça l'arrive. Et est-ce que c'est décevant? Surtout si la personne savait, c'est pas parce qu'elle a oublié, puis elle a plus trop d'engagement, mais elle savait, mais elle a fait autre chose. Eh bien, Dieu est le premier à lancer l'invitation, mais l'homme ne se présente pas au rendez-vous parce que l'homme est caché quelque part derrière quelqu'un ou derrière quelque chose. Il est peut-être derrière son buisson ou il était peut-être en train de dire « c'est la femme que tu m'as donnée hein? ». Un peu comme Adam dans le Jardin d'Éden. On a une vision d'un Dieu punitif et cette vision-là outrepasse la vision d'un Dieu aimant. Dieu est saint, puis moi je sais que je suis vraiment pas. Donc l'humanité mortelle qui est séparée d'avec Dieu a laissé la culpabilité dominer son cœur. Et à quelque part dans sa tête, il y a cette idée qui est indigne de l'amour. Mais Dieu continue à faire une invitation et Dieu nous attire. Et donc, c'est quelque chose de se savoir invité. C'est une autre chose qui est merveilleuse, c'est de se sentir acceptable. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Se sentir acceptable devant un Dieu saint. Se sentir... ça ne monte pas au cœur de l'homme. Je vais développer un petit peu là-dessus. On va tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Et on va lire jusqu'au verset 16. Dans ce verset-là, on va voir que la grâce de Dieu n'est pas naturelle. Ça ne monte pas au cœur de l'homme, naturellement. 2, 9 à 16. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme, dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et il n'est jugé lui-même par personne. Alors, le verset 16 dit, « En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Nous avons la pensée de Christ. » Donc, ce verset-là nous dit que Dieu a fait quelque chose, celui qui nous a convoqués a fait quelque chose, puis il nous a révélé une grâce particulière qui nous a été faite. Et ça ne monte pas au cœur de l'homme. L'homme, normalement, lui, est dans la honte et il a le sentiment de ne pas en faire assez. Dès les premières pages de la Bible, on voit un homme qui va mal gérer sa culpabilité. Déjà, il va sentir que Dieu, c'est pas un sacrifice qu'il a besoin, c'est que je travaille encore un petit peu plus fort, que j'en fasse encore un petit peu plus pour lui. et on va voir un Caïn qui va offrir, qui va tenter de faire du travail parce qu'il sent qu'on n'en fait jamais tout à fait assez. Et pourtant, ça, c'est ce qui est naturel. L'homme va essayer d'expier lui-même ses propres fautes, il va essayer de se racheter lui-même. Mais Dieu, lui, ce qui lui plaît, c'est un sacrifice qui va venir couvrir. Et on va parler de ce qu'il a fait pour nous. Donc, il y a un sentiment d'avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire ou un sentiment de ne pas en avoir assez. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'être renouvelé dans notre intelligence. Puis alors que je préparais ce message-là, souvent je me dis, je vais essayer d'étudier encore plus, je vais essayer d'aller à un endroit où ce que les gens, je les ai jamais amenés auparavant, je vais essayer moi-même d'aller à un endroit où je peux aller pour essayer de connaître encore plus Dieu. Mais c'était clair quand je priais, et que je réfléchissais dans le silence à propos de ce message-là, que ce qu'on a besoin, c'est pas d'une nouvelle connaissance sur Dieu, c'est de ce qu'on connaît, de se le faire rappeler. Parce que dans 2 Pierre 1, au verset 11 ou 12, c'est écrit que « Celui qui a mis en oubli le pardon de ses péchés, les ténèbres ont aveuglé ses yeux et il ne sait pas où il va. » Et donc, ce qu'on a besoin ensemble de faire, c'est de renouveler notre pensée, parce que les pensées de la chute reviennent. Ce qui est naturel au cœur de l'homme, c'est toujours ça qui revient. On se sent toujours pas à la hauteur face à un Dieu saint. Et ce qu'on a besoin, c'est pas ce qui monte naturellement du cœur de l'homme. On a besoin du renouvellement de pensées, c'est-à-dire remplacer des vieilles pensées par des nouvelles pensées. Et ces pensées-là, c'est pas nécessairement des nouvelles apprentissages, c'est peut-être des choses qu'on a mis en oubli. Et donc, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va stimuler nécessairement mon dictionnaire biblique, qui va me rajouter des définitions, mais c'est peut-être des choses qui vont me rafraîchir puis qui vont me faire revenir à la grâce de Dieu pure et sans ajout. Okay? Et donc, c'est pour ça que je vais aussi prêcher sur Galates, parce que le message de la grâce, c'est quelque chose qui est comme le joyau d'une église, puis si ça s'est volé, ben il ne reste plus grand message pour cette église-là. Donc, être renouvelé dans notre intelligence, c'est pas nécessairement d'avoir des nouvelles pensées, mais c'est que nos pensées soient remplacées. Par exemple, la pensée naturelle, c'est naturel de penser que si on a échoué, on est un échec. Mais ce qui est surnaturel, puis qui ne vient pas au cœur de l'homme, c'est que je suis l'œuvre de Dieu créée en Jésus-Christ, dans Éphésiens 2:10. Je suis le succès de Jésus-Christ. On en a parlé dans mon dernier message de ça. Ce qui est naturel, ce qui monte normalement, c'est d'être déçu des résultats. Mais ce qui est surnaturel, c'est que je suis en train de devenir, en Christ, quelqu'un, par sa grâce. Des fois, tu sais, j'écoute des histoires d'églises qui ont des milliers de personnes, puis là, ils partent des petites églises, puis là, pouf, ça explose partout, tu sais, je suis là. J'ai l'air d'un arbre d'automne, pas de fruits, tu sais. Des fois, je me dis, est-ce que j'ai fait le deuil de cette idée que le résultat, c'est 10 églises en 10 ans? Est-ce que j'ai fait le deuil de cette idée de que le résultat, c'est pas nécessairement ce qu'on accomplit, mais c'est ce qu'on devient? Et à faire le silence devant Dieu, ça m'aide à comprendre ça. Ça m'aide à comprendre que ce qui est naturel, c'est il y a 13 ans, on ouvrait 10 églises dans les 10 prochaines années. Tu sais. J'arrivais avec mon cheval, puis là, on a changé l'énoncé de vision pour dire c'est pas atteindre Dieu dans notre génération, on va atteindre une personne à la fois. Tu sais. Ça nous a rendu plus intentionnels. Mais quand même, est-ce qu'il y a des deuils qui sont là, qui ne sont pas gérés, tu sais? Est-ce que la pensée naturelle nous fait du tort, un peu? Et en force de faire le silence et d'être devant l'Éternel, ce qui vient d'en haut nous est donné. Ce qui vient d'en bas, c'est déçu, peut-être des résultats, puis en passant, je ne suis pas déçu de personne. Bien, déçu peut-être qu'on n'ait pas été cette communauté aimante qui s'est développée comme je le rêvais, comme je le voyais peut-être. Mais après ça, il y a une voix douce qui me dit, recule de 13 ans. Est-ce que Christ est devenu pour toi plus cher, plus précieux? Est-ce que tu es devenu toi-même quelqu'un de différent en Christ en recevant sa grâce? Et je suis obligé de dire oui. On est obligé de dire oui à ça, parce que Dieu, l'œuvre dans Philippiens 1:6, l'œuvre qu'il a commencée en nous, il la rend parfaite pour le jour de Christ. Des pensées naturelles qui disent « Dieu doit être déçu de moi » et une pensée surnaturelle qui vient te citer Sophonie 3:17 qui dit « L'Éternel fait de toi sa plus grande joie. » Alors que toi, tu penses décevoir Dieu, Sophonie 3:17 dit « L'Éternel fait de toi sa plus grande joie. Il garde le silence dans son amour et il tressaille de joie. » C'est pas naturel. Toi, tu penses que Dieu est déçu de toi. Mais dans la parole, il nous dit qu'il tressaille de joie quand il te regarde. Ce savoir invité par un Dieu qui nous aime vient briser la résistance naturelle de voir Dieu seulement comme un maître ou voir seulement Dieu comme un juge ou de voir ce Dieu-là seulement devant qui on doit rendre des comptes, qu'il doit être déçu de moi. Mais il est beaucoup plus que ça. Il est beaucoup plus qu'un père. Un juge, il est un père. On est invité par un père qui désire notre présence, nous attire, mais encore, Dieu doit encore briser une autre résistance, celle de la honte. Nous sommes toujours proches de nos insuffisances, toujours proches de ce qui nous manque. Donc, c'est normal, ça montre au cœur de l'homme que... qui nous manque, qu'on est des faibles créatures, mais l'idée que Dieu nous rende acceptable doit nous être montrée parce que naturellement, on ne le voit pas. Comment est-ce que moi, je peux être acceptable devant ce Dieu saint-là? Dieu doit me montrer que je suis acceptable devant lui. Puis ça, c'est pas venu au cœur de l'homme. Naturellement, l'homme va essayer d'offrir son meilleur panier de fruits à Dieu, va essayer d'offrir le mieux qu'il peut à Dieu, parce qu'il se sentira toujours inacceptable devant lui. Et notre pensée a besoin d'être renouvelée pour recevoir des pensées qui viennent d'en haut. Hein? Comme je disais, on a besoin d'être rappelé et c'est pas nécessairement d'apprendre des choses nouvelles sur comment Dieu nous voit. C'est peut-être de se rappeler comment Dieu nous voit. L'image pour être rendu acceptable devant Dieu est souvent utilisée comme un vêtement. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'être habillé. Parce que la convoitise de chercher quelque chose de mieux en dehors de ce que Dieu m'a donné s'est étendue à la sexualité. Merci. Alors qu'avant la chute, le regard de l'autre était satisfait en son Dieu. Maintenant, on est dans un monde où personne ne prend plaisir en son Dieu et c'est bien d'être habillé. Puis même si on est très spirituel, c'est bien d'être habillé. Donc, couvrir la nudité est souvent utilisé pour compléter ce qui nous manque ici. Adam, Dieu s'est couvert avec des feuilles de figuier. Et Dieu l'a couvert avec des peaux d'animaux. Donc, il a tué le premier animal pour montrer qu'un quelqu'un, un innocent, payait pour un coupable. C'est un bel acte prophétique qui nous montrerait l'œuvre de Jésus-Christ. À la naissance d'Israël, tournez avec moi dans Ézéchiel chapitre 16. On va regarder comment Israël est né. Ézéchiel chapitre 16. 16. C'est vraiment beau, qu'est-ce qui est écrit ici. Israël est né par Abraham, hein, mais en tant que nation, là, elle a été rachetée du pays de l'Égypte, si on peut dire. C'est là qu'il va appeler la première fois la nation son fils. Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié et frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Verset 5. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, au contraire, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que tu provoquais le dégoût. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient méprisés. Je suis passé près de toi et je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors j'ai dit, vis dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Posez-moi pas de questions là-dessus, je ne l'ai pas étudié, je ne comprends pas encore cette partie-là. Mais verset 7, je t'ai multiplié à l'infini. Comme l'herbe des champs, tu t'es développé, tu as grandi, tu es devenu très joli. Tes seins se sont formés, et là il va prendre l'image de l'herbe des champs pour parler du nombre des enfants d'Israël qui se sont multipliés. Après ça, il va prendre l'image du mariage. Donc ensuite, il dit, tes seins se sont formés, tes cheveux ont poussé, mais tu restais nu, entièrement nu. Je suis passé près de toi, je t'ai regardé, et tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit, j'ai couvert ta nudité, je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur l'Éternel, et tu as été à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, je t'ai fait disparaître, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, et je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai habillé avec des vêtements brodés et chaussé avec du cuir fin. Je t'ai mis un bandeau de fin lin et je t'ai drapé de soie. Je t'ai paré de bijoux. J'ai mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Voyez-vous, il y avait du piercing dans ce temps-là? Un anneau à ton nez. Vous avez le droit pour le nez. Alors, c'est une blague. OK. Ainsi, tu étais paré d'or et d'argent, et tu étais habillé de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Tu te nourrissais de fleurs, de farine, de miel et d'huile. Tu étais devenu extrêmement belle, et tu as prospéré au point de devenir un royaume. On a commencé à parler de toi parmi les nations à cause de ta beauté. En effet, elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais ornée, déclare le Seigneur l'Éternel. Et il dit, j'ai mis sur toi le pan de ma robe. C'est une expression pour le mariage. Et donc, Dieu qui est rentré en relation d'alliance avec le peuple d'Israël. Hein, on a aussi dans des images de vêtements, quand que le fils prodigue revient, puis son père dit, lavez-le, mettez-lui les plus beaux vêtements. Zacharie, chapitre 3, on voit le sacrificateur qui était là devant l'Éternel et Satan qui était là pour l'accuser. Ses vêtements étaient tous sales et c'est écrit, mettez-lui une robe neuve. On voit dans les convocations, par exemple, de mariage, c'est écrit qu'il y en a qui avaient les habits de noces, d'autres qui n'avaient pas les habits de noces. Et on voit qu'il y en a qui sont acceptables, d'autres qui ne sont pas acceptables. À l'église de Laodicée, dans les sept églises, dans les lettres aux sept églises, dans l'Apocalypse, on voit une église de celle qui est probablement avant l'enlèvement. C'est l'église qui se croit riche, qui pense qu'il n'a besoin de rien, mais que Dieu dit qu'elle est nue, pauvre, misérable, aveugle et nue. Et une des choses qu'il lui recommande, c'est de se revêtir d'une robe blanche. Et donc, être rendu acceptable pour rencontrer Dieu, c'est d'être revêtu d'une justice qui n'est pas la nôtre. Et c'est là que vient se briser dans notre entendement cette idée que je peux m'approcher de Dieu malgré ce que j'ai fait dans mon passé, malgré les cadavres dans mon placard, je peux m'approcher de Dieu parce que je m'approche maintenant revêtu d'une robe de justice qui n'a pas été achetée par mes propres œuvres, mais par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et donc, dans Galates 3, verset 26, c'est écrit, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous avez revêtu Christ. » Dieu m'a rendu acceptable en Jésus-Christ. Je parais devant Dieu dans la justice de son Fils. Je suis revêtu de Christ. Encore, c'est le terme de vêtement. Quand vous voyez en Christ, dans le Nouveau Testament, être en Christ, c'est d'être revêtu de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 1:30, il dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je suis revêtu de celui qui a été fait pour moi justice. Pour Dieu, Je suis rendu acceptable. Je suis invité par le Dieu Saint de l'univers devant qui tout est mis à nu et qu'on va devoir rendre des comptes. Ensuite, je suis rendu acceptable devant Dieu pour me présenter devant lui. Dans Hébreux, ça nous dit, présentez-vous avec assurance devant le trône de la grâce. Donc, je peux me présenter devant lui avec assurance parce que je suis présentable dans la justice de son Fils. Et si nous parlons des mauvaises œuvres, j'ai à rendre compte, oui, encore de ces œuvres-là, mais je me présente et je suis totalement accepté et acceptable. C'est une chose d'être invité par quelqu'un qui désire notre présence. Ce Dieu-là est saint. Et c'est quelque chose que d'être dans la présence du Dieu trois fois saint de l'univers, dans la justice d'un autre. Bien que je suis très proche de mon humanité et je comprends très bien mes insuffisances, mais Dieu me laisse rentrer. Je suis un fils accepté pour Dieu et je suis recouvert de la justice de son Fils. Et c'est l'Esprit qui me montre ça, qui convainc à mon esprit que même si j'ai pas été à la hauteur, je suis quand même dans la justice de son Fils pour m'approcher de mon Père aimant. Et c'est comme ça qu'il m'attire, parce qu'il me montre non pas juste un juge, il me montre un Père, mais à cause qu'il est un juge, il me présente aussi un sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ qui, lui, prend sur lui la peine de mes fautes pour que je puisse me présenter ainsi devant mon Père. Et ça gagne mon cœur et ma peur diminue. Il vient briser ma résistance qui se trouve à être une peur, et donc je peux m'approcher de lui. Et ma vision de moi-même est au travers la justice d'un autre, et tranquillement, je commence à me voir comme Dieu me voit, et je vais commencer à agir comme ça aussi. Il y a une autre résistance, et c'est la dernière que je veux parler aujourd'hui. Donc, on a parlé, la première résistance, c'est notre façon de voir Dieu. La deuxième, c'est la façon de me voir. Okay? Donc, Dieu est un Père. Et je suis rendu acceptable devant lui. La dernière résistance, c'est celle de ma nature mortelle, c'est la convoitise. Je n'ai jamais autant compris que quand j'ai étudié ce message, la convoitise. C'est loin d'être juste regarder une personne du sexe opposé pour l'imaginer avec nous. C'est beaucoup plus que ça, c'est de chercher son contentement dans quelque chose qui ne nous est pas alloué ou donné. C'est de chercher ailleurs que dans ce qui nous est donné ou alloué. Et donc, il y a en moi cette convoitise-là. Et tant mieux si on la reconnaît. C'est que depuis la chute, on est placé devant beaucoup d'options pour satisfaire le vide de notre cœur. Hein? Beaucoup d'options. Avant, Adam avait beaucoup d'options pour servir le Seigneur, manger de toutes les arbres du fruit, faire ce qu'il voulait. Mais il y a une affaire qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous sont offertes, qui nous éloigne de notre Créateur. Hein? Donc, on va appeler ça la diversion. On va aller à tout avant d'aller à Dieu. Et on va dire, je veux un Dieu que je peux toucher ou que je peux voir. Déjà, dans les premiers livres de la Bible, tu vois, la montagne est là, est en feu. Moïse et sa montagne, ils voient Dieu, mais eux autres, ils voient juste une montagne en feu. Puis si quelqu'un s'approche de la montagne, ils crèvent. Mais ils vont dire, ils enlèvent toutes leurs boucles d'oreilles, puis ils disent, faites-nous un Dieu qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Les gens aiment mieux avoir quelque chose de concret que d'avoir Dieu qu'on voit pas. Et ça, c'est la même chose pour nous. On aime mieux les choses qui nous rapportent maintenant parce qu'on le voit, qu'on l'entend ou qu'on le touche, que d'être dans la présence de Dieu, silencieuse, de parler à Dieu qu'on voit pas. On aime mieux ça. Et pourquoi on fait ça? Ah, Aaron, on va avoir un rap avec lui, on va en parler de ça. Mais qu'on soit aussi, on le prend dans un coin et on lui demande pourquoi tu as fait ça. Je le laisse répondre de lui. Mais je pense que c'est la politique puis la pression. Quand les gens mettent une pression sur nous, parfois, on craint le peuple. Puis le Moïse n'est pas là pour le défendre, mais bon, je sais pas, je suis pas... Mais on veut un Dieu qu'on veut voir, un Dieu avec un petit dé. Et ça, c'est les idoles de nos vies qui viennent nous voler. C'est pas que les choses naturelles, bonnes à faire, sont nécessairement des idoles, mais lorsque toutes les choses qu'on peut toucher, voir ou sentir ne me permettent pas de prendre un temps en silence devant mon Créateur, elles sont devenues une idole en eux-mêmes. Elles ne le sont pas par nature, elles le deviennent parce qu'elles me volent de l'essentiel. Donc, dans ce monde, pour Dieu, l'évident n'est pas l'essentiel. L'évident n'est pas l'essentiel. Mais, dans ce monde aussi, l'essentiel n'est pas l'évident. Ça veut dire qu'on ne tombe pas sur Dieu par accident. Et donc, il va falloir briser cette résistance-là en disant, « Sais-tu quoi? Il y a quelque chose dans mon cœur qui dit que d'écouter, sortir avec des amis, tout est meilleur que de juste rester en silence dans la présence de Dieu pour un temps. » Puis ces choses-là, comme je dis, ne sont pas mauvaises. Ils ont leur place. Elles ont leur place. Mais l'essentiel n'est pas évident. Si on veut briser cette résistance-là, il va falloir qu'on reconnaisse cette idolâtrie-là dans notre cœur. Ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit on se tourne vers Dieu à cause qu'on a vraiment besoin puis on a tout essayé, mais on n'est pas obligé d'arriver là. On n'est pas obligé d'essayer tout ce qui se touche, tout ce qui se voit et tout ce qui s'entend. On n'est pas obligé d'être dans un monde matériel pour penser qu'il y a enfin cette chose-là. Comme le collectionneur qui court pour obtenir l'objet de son plaisir, puis quand il l'a trouvé, le voilà encore à la course pour chercher l'objet qui le rendrait enfin heureux. On n'est pas obligé de faire cette course-là. On peut se faire violence puis arrêter puis dire, sais-tu quoi? J'attendrai pas nécessairement d'avoir fait le tour de ce qu'il y a dans ce monde pour savoir que c'est juste en Dieu que mon cœur peut se reposer. Saint Augustin a dit, Dieu nous a créés pour lui et notre cœur ne se repose qu'en lui. Fait qu'il ne doit en avoir qui ont été plus loin que moi, mais moi je décide d'arrêter cette course-là puis de dire, sais-tu quoi? Je vais chercher d'abord en Dieu pour trouver mon plaisir. Puis, je prendrai tout ce qui vient de sa main dans le monde visible et matériel qu'il m'a donné. On n'est pas obligé d'essayer tout dans ce monde pour réaliser que c'est de Dieu qu'on a besoin dans ce monde. On n'est pas obligé d'aller après toutes les cures puis de voir qu'il n'y en a plus puis aller dans un autre pays pour aller trouver notre cure. Si on sait que la cure est dans l'autre pays, on peut tout de suite y aller. Dans mon premier message, on a dit que celui qui cherche les choses d'en haut, c'est celui qui sait qu'il ne peut pas trouver les choses ici-bas. Il cherche sa paix d'en haut, il cherche sa joie d'en haut, il cherche d'en haut les choses que le monde ne peut pas lui offrir. Mais on n'est pas obligé d'être épuisé puis d'avoir fait le tour. On peut répondre à l'invitation de la solitude et du silence, et il y aura quelques peurs qui vont jaillir en surface. Ces peurs-là, c'est quoi? La peur, c'est que je vais peut-être manquer de quelque chose. Ce que Dieu a à m'offrir, j'ai peur que c'est pas ça nécessairement qui va me combler. J'ai peur d'être laissé vide si je vais à Dieu plutôt que de me servir moi-même. J'ai peur de m'ennuyer, de trouver Dieu plate et le monde le fun. Mais ça prend pas beaucoup de lecture pour arriver à la construction du tabernacle dans l'Ancien Testament pour s'apercevoir que c'était une tente plate à l'extérieur. C'était des peaux d'animaux, c'était drabe à l'extérieur. Mais dès que vous pouviez rentrer à l'intérieur, si vous aviez le privilège d'être à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Des murs de bois recouverts d'or à grandeur, avec des chandeliers qui étincelaient de leurs 1000 étincelles, hein, de la lumière. Il y avait les tables de pain sans levain, puis il y avait le rideau. C'était glorieux à l'intérieur. Mais l'homme naturel, ce qui n'est pas monté à la pensée de l'homme, c'est que la présence de Dieu, c'est il y a d'abondantes joies devant ta face. Hein? Psaume 73, « Quand je suis rentré dans tes sanctuaires, mon cœur, c'est quoi qu'il dit? Mon cœur peut défaillir, mais l'Éternel sera toujours le rocher de mon âme. » À la fin du psaume 73, en tout cas, il parle qu'il est rentré dans le sanctuaire de Dieu. « Vaut mieux un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Même les moineaux qui sont dans la corniche du temple sont heureux. Tu sais, il va dire ça dans ce psaume-là, hein, psaume 84. Donc, j'ai peur de m'ennuyer, de trouver ça plate et de trouver le monde le fun, puis de manquer quelque chose. J'ai peur de découvrir que ma quête de plénitude, est orientée. En tout cas, je ne sais pas si ça voulait dire ça. OK, Ézéchiel, êtes-vous encore là? Vous êtes encore dans Ézéchiel? Excellent. Laissez-moi vous rejoindre. On va continuer à lire le verset. Donc, vous avez, vous rappelez l'histoire d'Israël, qui est étendu, Dieu a étendu le pan de sa robe, il l'a garni de toutes sortes de pierres précieuses, il a fait de la nation d'Israël une nation enviée. Et là, on va lire à partir du verset Ézéchiel, chapitre 16, verset 15. Cependant, OK, donc il dit tout ce qu'il a fait pour elle, tout ça, hein? Cependant, tu as placé ta confiance dans ta beauté. Tu t'es appuyé sur ta réputation pour te prostituer. Tu as entraîné tous les passants à se prostituer avec toi. Tu as été avec eux. Quand la prostitution est utilisée au sens figuré, ça parle de l'idolâtrie. Tu as pris de tes habits, tu t'es fait des hauts lieux riches en couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de pareil n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris les bijoux qui composaient ta parure, tu as pris de mon or et de mon argent, ceux que je t'avais donnés, que tu en as fait des statues d'hommes avec lesquels tu t'es prostitué. Tu as retiré tes vêtements brodés pour les en recouvrir, et c'est mon huile et mon encens que tu leur as offert, le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile, le miel dont je te nourrissais. Tu les as déposés devant elles pour leur offrir un parfum agréable. Voilà ce qui est arrivé, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais vous lire maintenant dans Jérémie chapitre 2 pour vous parler de celui qui nous appelle, pour parler de l'époux, pour parler de l'époux, comment il se sent dans cette situation-là. Puis dans Jérémie au chapitre 2, versets 1 à 13, vous pouvez tourner si vous voulez, c'est deux ou trois livres avant, ça va être quand même 13 versets. Mais, et regardez ça. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Va crier aux oreilles de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert sur une terre impossible à ensemencer. Israël était consacré à l'Éternel. Il était la première partie de sa récolte. Donc, voilà. Tous ceux qui en mangeaient s'en rendaient coupables. Le malheur fondait sur eux. Déclare l'Éternel. Donc, il dit, tu étais mon peuple, tu étais la première partie de mes semences, si on peut dire. Puis, il y avait une règle qu'on ne mangeait pas les premières parties, car elles appartenaient à l'Éternel. Et là, les nations, sont, quand ils faisaient du tort à Israël, ben, Dieu s'en occupait, hein, parce que c'était sa bien-aimée. Verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, famille de Jacob, et vous, tous les clans de la communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi? Pour s'éloigner de moi et suivre des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert sur une terre aride en plein, et pleine de ravins, sur une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, sur une terre où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangiez des fruits et des bons produits qui s'y trouvent, mais vous êtes venus. Vous avez rendu mon pays impur. Vous avez fait de mon héritage une horreur. Les prêtres n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les spécialistes de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom de Baal et ils ont couru après ce qui ne sert à rien. C'est pourquoi je veux encore lancer des accusations contre vous, déclare l'Éternel. J'en veux, je veux aussi vous lancer en lancer contre vos descendants. Autrement dit, je pense que je voulais juste lire à partir du verset 1 à 3, j'avais marqué 13, mais c'est vraiment intéressant. C'est tout le chapitre est vraiment intéressant. OK. Donc, l'époux ici, il dit, qu'est-ce que vous avez trouvé en moi pour m'abandonner? Alors, lorsqu'on fait le silence, il y a des études qui ont été faites hein, en passant. Julie était ici. Julie Paul-Duc, la femme à Pasteur Patrice, était ici la semaine passée. Elle faisait un colloque à Victoriaville. Et il y a un spécialiste du son qui parlait. Puis il dit, on a des chambres sans bruit. Des chambres parfaites sans bruit. On coupe tout son qui vient de l'extérieur. Savez-vous qu'est-ce qu'on entend? On commence à entendre. Tu sais, quand on tourne notre cou, là, tous les muscles là, qui frottent ensemble les uns sur les autres, là, on commence à entendre tout. Le cœur. On entend nos organes. On devient hyper, hyper très sensible, puis il y en a qui ne sont pas capables de tolérer ça. Et je trouve que c'est une belle image quand même que lorsqu'on arrête, puis qu'on fait le silence, on va écouter qu'est-ce qui se passe en dedans. Le silence nous rappelle la mort. Quand on va être mort, toutes nos activités vont être cessées, n'est-ce pas? On va arrêter toutes nos activités, il va rester quoi? Nous et Dieu. Et donc, le silence nous rappelle ce qu'il y a entre nous et notre Dieu aussi. Et pour certains d'entre nous, ça peut nous montrer qu'il n'y a pas grand-chose entre nous et notre Dieu aussi. Mais si on persévère dans le silence devant Dieu, on va orienter notre cœur vers ce qui est essentiel, puis on va orienter notre quête pour la plénitude en dehors de ce monde. Puis en passant, je ne suis pas comme dans Colosse, on a beaucoup combattu l'idée que le monde est mauvais, puis il y a juste les choses immatérielles qui sont bonnes. Hein? Je ne suis pas là. Le monde matériel est bon. C'est bon de manger, pas une poutine, mais je sais pas. Il y a plein de choses qui sont bonnes à manger, il y a plein de plaisirs visuels à regarder, il y a plein de choses belles à regarder dans ce monde, il y a plein de choses à expérimenter qui sont merveilleuses dans ce monde. Je suis pas en train de dire qu'il faut comme plus être. Les religions de l'Est disent, la souffrance vient d'un monde de sens, donc cesse de sentir. Nous, ici, ce que j'enseigne, c'est ma quête de la plénitude ne doit pas juste être dans le créé, mais dans le créateur. Okay? C'est juste ça ici qu'on dit. Et toutes choses qu'on va prendre plaisir ne seront pas des idoles. Au contraire, ça va être merveilleux, ça va être la conséquence de ça. Mais ma quête est quand même en dehors du monde pour chercher les dons parfaits qui viennent d'en haut. Puis le silence, ça m'aide à faire ça. Parce que ça arrête toute distraction dans ce monde. Colossiens 3:3 dit, cherchez les choses d'en haut. Il y a des choses sur la terre qui doivent mourir. Ce n'est pas les plaisirs, c'est le péché. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, il nous dit de faire mourir les choses qui sont sur la terre. L'idolâtrie, les passions qui agissent dans nos membres. Et donc, Dieu sait que le silence, c'est quand même ça qui va faire que le fils prodigue va dire, il entra en lui-même et se rappela qui était bien dans la maison de son père. Je le dis en québécois, mais c'est ça que ça dit dans Luc 15, quand il dit, il entre en lui-même, puis il s'est dit à lui-même, il s'est parlé à lui-même. Ce n'est pas un temps de prière, le temps du silence, ce n'est pas un temps de lecture, ce n'est pas un temps d'arrêt. C'est un temps juste de faire taire les distractions, puis les postes de radio. Puis là, il a arrêté un petit peu, puis il a dit, oh boy, OK, je suis allé essayer le monde. Je suis allé essayer une expérience loin de mon père. Je pensais que quelque chose loin de mon père dans un pays étranger, c'était quelque chose qui me manquait. Mais là, je rentre en moi-même puis je réalise, sais-tu quoi? J'étais-tu bien dans la maison de mon père? Et donc, c'est proche du père. Et le silence fait ça. Et Dieu sait que le silence accomplit ça. Et c'est pourquoi il va dire à son épouse, hein, dans Osée, Dieu va amener un silence forcé sur Israël. Il dit littéralement, je fermerai le chemin qu'elle prend vers ses amants. Parce que dans le fond, Israël est une prostituée ou est une femme infidèle qui quitte son mari pour aller vers ses amants. Et donc, il dit, je mettrai des épines dans ses chemins pour qu'elle ne retrouve plus le chemin de ses amants. Et il dit, afin qu'elle dise, je retournerai vers mon premier mari où j'étais plus heureuse. Hein? La grâce que Dieu veut nous offrir ne vient jamais sans tenir compte d'une reconnaissance que les choses de ce monde m'ont laissé vide, que mes péchés ont été une offense envers Dieu. Dieu dit pas, je sais pas ce que vous avez fait, c'est pas grave, je vous donne de l'amour. Non, non, il met des épines sur son chemin, il rend son chemin plus difficile pour qu'elle trouve pas ses amants, puis qu'elle dise, voyons, la passion que j'avais, je suis plus capable d'aller là. Puis qu'elle dise, dans le fond, je perds rien, c'est mon mari qui me rendait heureuse. Hein? Et donc, dans le livre, il dit, les récoltes vont être moins nombreuses. Dieu dit, il va prendre ses récoltes, puis qu'il va avoir moins de récoltes, avoir moins de joie dans toutes ses activités. C'est un peu ça qu'on lit dans Osée, mais là, j'ai pas noté le chapitre. Il y a 14 chapitres, fait que c'est probablement dans le premier chapitre. Osée. C'est dans le chapitre 2. Il dit, je ferai cesser toutes ces joies, ces fêtes, ces célébrations du début du mois, ces sabbats et toutes ces fêtes solennelles. Je dévasterai ses vignes, ses figuiers. Là, à vie, Israël vit un moment difficile. Et au verset 14, il dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Je vais juste faire une petite interruption, si on peut passer pas. OK, on continue. Le verset, il dit, je vais l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Là, qu'est-ce qui arrive? Elle a perdu le chemin vers ses amants, ses vignes, ça ne marche plus, le produit de son sol, ça ne marche plus, puis elle s'aperçoit que s'éloigner de son époux, c'est aussi la pauvreté. Et c'est la nécessité qui va la conduire, et c'est dans cette solitude-là, dans ce désert-là, qu'il va l'attirer pour parler à son cœur. Et au verset 16, « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Sa vision de son époux va changer. Et il dit, « J'ôterai de sa bouche le nom des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus. » La solitude et le désert dans nos vies sont nécessaires. Et ils étaient nécessaires pour l'adultère Israël, pour revenir à son époux. Le silence était nécessaire, le désert, une expérience de désert dans la vie du fils prodigue était nécessaire pour qu'il revienne dans la maison de son père. Hein? Et c'est ce qui l'a conduit pour enfin dire « J'étais tout bien dans la maison de mon père. » En conclusion, je veux juste vous encourager avec le livre d'Osée ici. C'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est quelque chose comme tu peux rester 100 ans assis dans la solitude. C'est quelque chose qui ne montre pas naturellement au cœur de l'homme. Mais le chrétien, lui, qui a reçu l'Esprit, comprend cela. Et le Seigneur peut l'aider à comprendre ça. Osée, le livre d'Osée, 14 chapitres. Dieu dit au prophète Osée, « Va prendre une prostituée. » Prends-la pour femme, prophète en Israël. Puis il dit, tu vas montrer à Israël qu'ils sont comme cette prostituée-là, qui allait vers plusieurs amants. Et là, au chapitre 1, verset 2, il dit, prends une prostituée. Puis au chapitre 3, il lui dit d'aller la rechercher. Il va la racheter. Parce que il a pris soin d'elle, il a donné son manger, il a fait tout pour elle, puis elle, bien, elle a utilisé ça pour aller retourner. Et il va la racheter à 30 pièces d'argent sur le marché des esclaves. Elle est vendue comme une esclave, probablement une pute qui ne sert plus, qui est usée. Et là, il va lui donner le prix d'un esclave mort, 30 sicles d'argent. En fait, il ne donnera pas 30 sicles d'argent parce qu'Osée, il a fait le fond de ses poches, puis il a 15 sicles d'argent. C'est tout ce qu'il peut lui donner, mais il va donner le reste. En donnant de l'orge. Et 30 sicles d'argent, c'était le prix d'un esclave mort. Et il l'achète au... quand tu, admettons, tu avais tué l'esclave de quelqu'un, tu le dédommageais en donnant 30 sicles d'argent. Mais c'était aussi 30 sicles d'argent le prix qu'on donnait pour se consacrer au Seigneur en échange d'un vœu. Quand une femme se donnait au temple pour le ministère, c'était le prix qu'elle donnait aussi. J'ai essayé d'utiliser les vœux, mais je suis pas encore tout à fait complet dans mon étude. Là, j'ai comme étudié ça à ce matin, fait que je vais pas trop avancer là-dedans. Mais il y avait cette idée que si tu retirais le vœu, tu perdais une somme. Comme s'il fallait que le peuple d'Israël réalise quand il faisait un vœu à l'Éternel, ben il y avait un prix qui était attaché à ça. Mais je ne suis pas capable de tout à fait le discerner. Mais une chose, on sait, c'est qu'Osée était prophète. Et probablement qu'il veut consacrer Gomer, cette prostituée s'appelle Gomer, avec lui au service de Dieu dans la maison du Seigneur. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça. Le plus proche que je peux comprendre, c'est que c'est le prix d'un esclave mort. Et sur le marché des esclaves, il la rachète. Il rachète. Et ça, c'est quelque chose parce que on va terminer avec un verset. C'est la grâce de Dieu. C'est une très belle image de la grâce de Dieu. Donc, Tite, chapitre 2, verset 1. Ce qui est merveilleux, c'est que si on a cherché ailleurs qu'en Dieu, ce qui vient briser notre résistance, c'est que, dans le fond, on pense encore que la vie, c'est dans le monde. Mais Dieu est prêt à réparer nos infidélités. Il est prêt à réparer nos convoitises, puis à nous ramener, nous faire grâce. Puis on peut revenir à lui. Et donc, on est désiré par le Père, pas juste par un juge, mais par un Père. On est rendu acceptable devant le Père. Puis on se pousse de lui, alors que lui, on ne se présente pas à l'invitation, puis on se pousse de lui, on ne se présente pas à l'invitation. Il fait l'invitation, on ne se présente pas à l'invitation. On se pousse de lui, on se pousse de lui, on se pousse de lui. Puis là, on dit, Seigneur, OK, là, je serais prêt à revenir. Bien, Dieu est prêt à nous faire grâce. Il est prêt à nous faire grâce. Serais-tu bien dans la présence de Dieu? Serais-tu bien proche de lui? Puis là, Dieu nous fait grâce. On voit ça dans Tite, chapitre 2, verset 11. Et je termine avec ça. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Donc, premièrement, rendu acceptable. Source de salut pour tous les hommes. Dieu rend chaque homme acceptable devant lui. Quiconque veut, la source du salut est révélée à tous les hommes. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Regarde ici. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Ça fait 13 ans que j'ai accepté Jésus. J'ai eu ma lune de miel avec lui. Il n'y avait rien dans ce monde qui était plus important que lui. Puis après ça, peut-être ça fait 5 ans que j'ai mis ma relation avec Dieu comme étant prioritaire dans ma vie. Il y a plein d'autres choses qui ont pris la place. Dieu dit, reviens. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, c'est beau, tu as été rendu acceptable. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises qui sont dans le monde. Bien. Dieu dit, je suis prêt à te faire grâce. Je te fais grâce. L'invitation tient toujours. Puis je vais te montrer qu'un jour dans mes parvis, dit le Seigneur, c'est bien mieux que mille ailleurs. Es-tu prêt à apprendre ça? Veux-tu apprendre ça? Veux-tu apprendre que la grâce de Dieu révélée va te montrer qu'elle est supérieure à tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que tu ne le sais pas. Tu penses qu'il y a encore quelque chose dans le monde, mais veux-tu que je te le montre? La grâce, elle se propose d'être un pédagogue et de nous montrer que l'impiété dans ce monde n'en vaut pas la peine. Les convoitises de désirer quelque chose que Dieu ne m'a pas alloué, ça ne vaut pas la peine. C'est merveilleux, hein? Donc, la résistance, c'est comme ça qu'on la brise. Donc, avant de continuer dans le silence, c'était important pour moi qu'ensemble, on puisse réaliser, oh boy, il y a toute une résistance. Si je n'adresse pas cette résistance-là, peut-être qu'on ne va pas embarquer dans le train de passer plus de temps devant Dieu dans ce sens. J'espère que ce message a été une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. On va terminer avec un chant. Père, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton cœur d'époux. Ton cœur de père. On voit, Seigneur, avec Israël, que tu t'es lié par alliance avec ce peuple-là, et que c'est un peuple que tu as résolu de faire ton peuple, que tu n'as pas entièrement abandonné ton peuple. Et c'est, on voit dans les Écritures que l'Église fait partie de ton peuple, parce que nous sommes de la progéniture de Jésus-Christ. Que tu t'es lié avec nous par alliance, que tu ne cesseras jamais de nous aimer. Tu resteras toujours ce convocateur qui nous invite, non pas juste à nous recouvrir de ton œuvre pour être juste, mais tu nous invites aussi à trouver notre plaisir en toi. Que ta grâce nous est offerte pour nous apprendre à vivre dans ce siècle en renonçant les choses qui sont pas dignes de tes enfants, les choses qui nous ont pas été données, les choses qui ne sont pas allouées. De nous délivrer des mensonges, Seigneur Dieu, que on pense que 1000 jours ailleurs vaut mieux qu'un jour dans tes parvis. De nous délivrer de ces craintes, Seigneur Dieu, que oh, si vraiment je me consacre à Jésus, je vais perdre quelque chose. De briser ces résistances-là dans nos cœurs. Merci, Seigneur, que tu as commencé cette œuvre et que tu la continues. Amen.